Bonjour. Alors, je me prénomme Micheline, j'ai 30 ans des poussières. Je suis célibataire et heureuse de l'être, complètement épanouie.
CO2, mon amour.
Je me fais mes petites soirées bien tranquilles, bien peinardes, comme disent les jeunes. Des petites soirées télé, des petites soirées restaurant, des soirées cinéma. Et puis, écoutez, j'ai pas de soucis de choix de films ou de choix de nourriture, hein, puisque je suis, seule. Avec mes amis, pas de soucis non plus, puisque je n'en ai pas. Voilà.
Denis Chessoux.
Donc, je recherche une personne entre 20 et 70 ans, même un chien ou une poupée qui parle, parce que là, je n'en puis plus. En vous remerciant.
Sur France Inter.
Et c'est peut-être vous, donc cette âme sœur, peut-être. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 de mon amour, ce magazine de nature et d'environnement. Émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. On va se rapprocher du jardin et des fleurs, vous l'avez compris, avec Elise et Moon. Aujourd'hui à la technique, Guillaume Roux. Cette émission est préparée par Camille Blanès. Je n'oublierai pas Alice Michaud, notre stagiaire, et Henri-Marc Mutel qui la réalise. Et qui va commencer bien sûr par une petite humeur à tenir. Vouloir nettoyer l'espace devenu poubelle technologique des déchets de satellites, assurément c'est une bonne chose. Mais pour nos débris de fusée au décollage, alors là il passe pas le camion poubelle du tout. Hein. De Kourou en Guyane française au Kourou en Afrique de l'Ouest, je vais vous raconter. Même notre sympathique et jovial leader nord-coréen renonce pour d'obscures raisons à balancer dans l'atmosphère toutes sortes de machins destinés à réduire en poussière les hommes et la planète. Question perturbation aérienne, seuls de gros phénomènes climatiques, volcaniques et des missiles d'origine russe, peuvent nous faire souci. Et il ferait beau voir que notre vaillante nation ne se montre pas à la hauteur. Alors ce fut fait il y a près de 2 semaines, là c'était le 25 septembre, partie des forêts tropicales guyanaise, le premier étage de notre gros lanceur Ariane 5, 31 mètres au garrot et 188 tonnes, tout de même le petit chérubin. Hein. Et il a fini sa course à bout de souffle et de carburant quelque part dans l'Atlantique, du côté de la Côte d'Ivoire. Alors on a eu l'élégance de prévenir la présidence, qu'elle dise à ses pêcheurs « Planquez vos pirogues si vous voulez pas bousiller vos filets sur une grosse prise ». On en a aussi causé deux mots aux plateformes pétrolières, parce que ce sont des copines, afin qu'elles soulèvent leurs jupes et s'éloignent vite fait sur leurs grandes papates au milieu des cargos et des pétroliers en fuite éperdue. C'est normal, personne ne voulait risquer. Malheureux, toucher coulé, ça se comprend. Alors les seuls qui étaient pour au parfum, c'était les baleines. Et non, dont il se trouve qu'il s'agit quand même d'un sanctuaire dans ce coin-là. Et avec quelques oiseaux marins insouciants et des poissons fuselés, elles sont peut-être aujourd'hui transformées en limande, allez savoir. Alors c'est très bête, on n'avait pas le 06 des baleines. Mais je vous rassure, tout ce petit monde animal, en plus de leur habituelle soupe de déchets au plastique, avalera des petits bouts de fusée. En fait, ça varie le menu. Hein. Ah. Et puis lui, il s'est installé tranquillement, comme un automne. Tourne la terre, l'été a joué les prolongations, puis lui a passé le relais pour s'éclater de soleil sur l'autre hémisphère. Les feuilles ne sifflent pas encore au vent, mais certaines craquent déjà sous les pieds. Les châtaigniers font éclater sans bug leur bug. Mûres et myrtilles sont ramassées. La lumière galope moins haut dans le ciel. Les ombres s'allongent et la chaleur a dit « Allez, allez, on remballe ». Deux jours sonnent, très attendus à coups de fourche, sont arrivés en hélicoptère dans les Pyrénées. On espère juste qu'on leur a prévu un gilet pare-balles. Et chez Betty Saladin, au pied du Mont Ventoux, le figuier abandonne ses feuilles jaunes à leur sort de futur compost. Le grand cycle des feuillus commence à se faire des cheveux blancs. Le mycocoulier tapisse la table du jardin d'un délicat linceul estival. Le plimbago, c'est pas une maladie, lance la salve du bouquet final. Le géranium espère une place au chaud dans la véranda. Les moineaux ont rendu les clés du gîte qu'ils occupaient dans le cyprès en dévalisant la treille de muscat. Et le chat, peut-être le vôtre, se love à nouveau sur les fauteuils pour faire ses 16 heures de sommeil. Feignasse, la vie est bonne. Le mistral met un peu de désordre dans tout cela. Bref, une vraie recette d'automne. Et avant donc de rejoindre Elise Moon, qui est avec nous tranquillement...
Je suis épaté par cette poésie, je trouve ça magnifique.
C'est votre jardin
aussi.
C'est
vous aussi qui avez écrit
ça? Ah oui, c'est moi. Oui,
c'est vrai?
Oui.
C'est étonnant, vous voyez, quand on vous voit, on se dit non, c'est pas possible.
Je sais, mais il y a beaucoup de gens qui disent
ça. Vous êtes surprenant, franchement, vous avez une belle plume.
Oui, on ne sait pas où,
mais... Écoutez, vous savez quoi? Je vous garde.
C'est bien. Ouais. Merci Élie, c'est génial. J'ai pouvoir donc raconter encore d'autres choses. Oui, et puis vous savez qu'on commence rituellement avec une petite actualité. Et là, nous avons en ligne Frédéric Danhé qui intervient régulièrement, ingénieur en environnement, auteur de plein de bouquins, dont d'ailleurs le Cessons de ruiner notre sol. Voilà. Bonjour cher Frédéric.
Bonjour Denis, bonjour monsieur le rédacteur en chef. Tout
bonjour, voilà. Comment allez-vous?
Ça va bien et vous-même?
Très bien.
Alors il va peut-être mieux, alors je ne sais pas que les états généraux de l'alimentation, parce que là on va faire un décryptage d'actualité avec deux thèmes, le GIEC et puis les états généraux de l'alimentation, donc tous les acteurs de l'alimentaire se sont retrouvés autour de la table, ça c'était la première fois où tout le monde se parlait, donc ça permettait de voir les rapports de force, etc. Alors dites-nous déjà, qu'est-ce qui a été, on va dire, retiré, qu'est-ce que l'on oublie dans ces états généraux de l'alimentation, puisque maintenant donc tout est passé merveilleusement à l'Assemblée nationale?
Oui, même si ça a été bloqué au Sénat, j'y reviendrai. Ce qu'on a retiré, c'est l'interdiction du fait de couper la queue des cochons, de leur raboter les dents, du fait de, comment dirais-je, on pourra continuer à leur couper les roubignoles avec les cochons, et également de broyer les poussins. Je pense que tout cela réjouit notre rédacteur en chef.
Tout ça. J'adore la purée de poussins, je tiens à le dire.
On pourra faire de la purée de poussins.
Si vous voulez mélanger à...
Là, il va
au
partir
de cochon. Non,
au coup de cochon, oui, ça marche très bien.
Ça marche très bien.
Ouais.
Ah, mais c'est terrible ce que vous nous racontez.
Tout ça continue. On n'a pas non plus interdit le glyphosate, mais quand même, on a interdit de la vente couplée au conseil, parce que vous savez le grand problème des insecticides. Des pesticides, c'est que les conseillers des chambres agricoles viennent conseiller les agriculteurs. Et comme par hasard, ce sont aussi souvent eux qui vendent les produits phytosanitaires. Ça sera strictement interdit. Donc voilà, il y a une petite avancée de ce côté-là. Il y a d'autres avancées quand même. C'est qu'il y a une obligation faite d'ici 2022 à tous les restaurants collectifs publics, cantines et pas de hôpitaux, d'avoir 50% de produits labellisés. IGP, AOC, AOP, Label Rouge, etc., dont 20% de produits bio.
Attendez, qu'on comprend bien, c'est 20% dans les 50%.
20% dans les 50%, ouais. Ce qui fait donc 10% si je compte bien. Tout ça est assorti avec la volonté gouvernementale d'amener la surface agricole utile en bio à 15% d'ici 2022. Elle est aujourd'hui à 6,5%. Ouais. Autre avancée,
il faut simplement que l'on paye actuellement les agriculteurs bio qui attendent et qui tirent la langue quand même
beaucoup. Les petites aides de maintien, il y en a qui sont amenées à la faillite parce que ces aides n'arrivent pas avec... Il y a toujours deux ans de retard. Il y aura également des essais de repas végétariens une fois par semaine dans les restaurants collectifs et notamment pour la restauration scolaire. Mais le plus gros morceau, Denis, comme vous le savez, c'est le changement dans la formation des prix. C'est aujourd'hui, c'est fixé dans la loi aux agriculteurs de s'organiser par filière pour fixer leurs prix de revient en dessous desquels la loi interdira aux distributeurs, qui, comme vous le savez, sont des amis de l'humanité.
Mais bien sûr.
Notamment Michel-Édouard Leclerc qui est furieux contre cette loi. Donc on ne pourra plus acheter sous le prix de revient dans la grande distribution. On ne pourra acheter que à 10%, au moins au-dessus du prix de revient. La question est de savoir qu'est-ce qu'un prix de revient, comment on le forme, comment on le calcule, et c'est là où c'est assez pervers, parce que non seulement il y a des organisations de producteurs qui n'y arrivent pas, mais il y a aussi des producteurs qui n'arrivent pas à s'organiser en filière de façon à pouvoir discuter pour établir le vrai prix de revient. Et dans le prix de revient, on ne compte pas a priori, d'après la loi, les salaires.
Déjà que la majorité des agriculteurs ont des salaires indécents de 300 à 1000 euros par mois, donc c'est bien compliqué.
350 euros par mois pour 60% des agriculteurs. Donc non seulement il sera difficile pour pas mal de producteurs de définir leur prix de revient, mais en plus, finalement, l'État se retire, parce que si d'aventure les producteurs n'y arrivent pas, l'État a bien dit dans la loi qu'il ne s'en occuperait pas. Donc
pas de garde-fou pour eux, quoi.
Il n'y a pas de garde-fou et les agriculteurs sont un peu, encore une fois, tout nu face à la grande distribution qui crie famine éventuelle, évidemment, mais qui pourtant va se retrouver avec l'obligation de facturer 10% de plus, et ces 10% de plus, elle risque de se les garder dans la poche, si vous voulez, parce que rien ne lui interdit de faire remonter ces 10% de plus jusqu'aux agriculteurs. Alors, il y a d'autres avancées sur les...
Et alors, les distributeurs, donc, ils sont des premiers de cordée, donc est-ce qu'ils peuvent faire ruisseler, on va dire, peut-être une partie de leur marge ou pas?
C'est la grande théorie macronienne du ruissellement, sauf que rien ne le prouve. Même les industriels de l'agroalimentaire ont un sérieux doute. pour savoir, voilà, quand on leur dit la grande distribution va acheter les produits 10% plus chers, ils sont à peu près persuadés que les 10% encore une fois vont rester dans la poche des grands distributeurs, parce que rien n'oblige vraiment à faire ruisseler vers le bas. Et de la même façon, un grand distributeur, un distributeur qui achèterait un produit 10% de plus, il pourrait très bien compenser en achetant un autre produit 10% de moins. Vous savez, ils ont un pouvoir de persuasion.
Alors Frédéric Danhé, le deuxième sujet, on le fait GIEC. Rapidement, mais c'est important, effectivement. Le rapport, un nouveau rapport du GIEC va donc sortir lundi. Si on reste en dessous des 1,5 degré supplémentaire, on parle bien de climat et pas de météo, on se dit que la suite pourrait s'envisager, mais au-dessus, et là c'est ce qui va sortir dans le rapport, c'est qu'il y a un effet d'emballement qui peut être absolument catastrophique.
Bah c'est ça, depuis la COP21, on se disait jusqu'à présent, jusqu'à 2 degrés on sait faire, là en fait on a abaissé 1,5 degré et au-delà, on sait plus d'autant moins qu'on envisage ce qu'on appelle des effets dominos, des effets boules de neige, c'est-à-dire qu'à 1,6 degré de plus, il pourrait y avoir des conséquences infiniment supérieures à ce que laisse supposer le seul petit 0,1 degré de plus. Donc en fait c'est ce que l'on craint, c'est un emballement complet à partir d'une toute petite hausse au-delà de ce seuil de 1,5 degré qui aura des conséquences sur les pluies, sur les feux de forêt.
Il faut bien comprendre que le moindre dixième de degré supplémentaire peut entraîner effectivement des effets de bascule. Et alors, ça veut dire qu'il n'y aura plus quasiment que des plantes tropicales dans le jardin d'Elysse et Moon.
Même dans le studio, il fait chaud, on est tous en train de se déshabiller. Vous voyez, alors, il y a juste un demi-degré de plus, oui. C'est rien. Mais on peut passer d'une émission de radio normale à une...
Non mais ça c'est parce partouze. Que vous êtes exhibitionniste, c'est autre chose,
voilà.
C'est un autre
truc. Mais surtout avec Denis Chessou, méfiez-vous.
Oui, bien sûr. Très vite aussi, on parle quand même de système de géo-ingénierie pour capter donc le CO2 dans l'atmosphère. Alors bon, on laisse tomber le côté ensemencement de la mer avec du sol.
C'est la première fois que le rapport en parle, va développer des stratégies, des technologies pour capter le carbone et puis l'injecter par exemple chez moi dans les anciens carreaux de mine. C'est la première fois qu'il en parle. C'est vous dire si on est arrivé un peu au pied du mur. Avant, le GIEC n'en parlait pas. Aujourd'hui, il en parle parce qu'on ne voit pas comment on pourrait y arriver autrement. La baisse de consommation ne suffira peut-être pas.
Et le plus tard on s'adaptera, plus cher évidemment ça coûtera. Et ça sera même d'ailleurs aussi au prix de la démocratie parce que là, il n'y aura plus le choix.
Hein. Ah bah évidemment, quand on décide au dernier moment, on ne consulte pas le Parlement, ça prend trop longtemps. Et là, c'est un petit autoritarisme climatique qui pourrait
arriver.
Merci
beaucoup, cher Frédéric Danhé, pour ces deux décryptages. Je sais que vous resterez à l'écoute. Écoutez-nous depuis Brunois, depuis votre forêt de Sénart. Tout va bien. Allez, musique sur France Inter. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. Woman, woman, woman. Choisi par Thierry Dupin, notre programmateur, c'était Cat Power Woman.
CO2, mon amour.
Des aubergines, du persil, du fenouil, des navets, des courgettes et des citrouilles. Un jardin potager où il fait bon aller, où l'on trouve de tout, du poireau et du chou.
Sur France Inter.
Ah oui, 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 là c'est ça. Mais alors en fait, déjà faut le dire tout de suite avec Elie Semoun et donc son ouvrage Pelouse interdite aux éditions Ulmer. Mmh. Eh ben, y a pas de potager.
Hein, ah non, ah non, ça m'intéresse pas du tout.
Comment ça, il va falloir vous y mettre, hein, parce que l'autonomie alimentaire, il va falloir.
Ouais.
Bah oui, oui.
Mais
oui.
Non, je suis complètement nul pour ça. Je l'avais fait, je l'ai raconté dans le livre parce que j'étais avec ma charmante Joséphine qui m'avait poussé à faire un potager, donc on l'a fait ensemble, on a creusé ensemble, on est allé chercher le compost, on l'a mélangé avec la, enfin on a fait tout ce qu'il fallait faire, et maintenant bah il y a plus qu'un artichaut, c'est peut-être mon cœur,
c'est ça,
qui a poussé, qui reste, voilà,
c'est très
c'est bon, une catastrophe, donc j'attends de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre qui va me pousser à faire
un autre potager.
Ouais, non mais j'avoue que si on vient vivre chez moi, on pourra se nourrir que de miel, de noix et de figues.
Alors c'est pas mal parce que le miel, on va en parler donc tout à l'heure avec les abeilles. Mais alors bon, vous avez été donc un petit gamin à Antony, donc dans les Hauts-de-Seine. Vous aviez le parc de Sceaux, donc il n'était pas loin aussi quand même.
Oui,
qui était une espèce de poumon aussi vert pour vous. D'ailleurs, il s'en souvient encore parce qu'avec la horde de gamins de votre classe, c'était pas.
Massacrer tout.
C'était pas de la botanique, hein.
Non, c'était pas de la botanique. Bon, on allait se balader. Enfin, apparemment, vous avez vécu aussi dans ce coin-là. Moi, j'ai eu mon bac au lycée La Canale.
Bah oui, moi, j'ai fait 6e terminale.
Voilà. Mais oui, mais les gens s'en souviennent encore et ils ne veulent plus vous recevoir. Je tiens à vous le dire.
C'est vrai.
Vous avez parce que moi j'ai peut-être massacré le parc de Sceaux, mais vous le lycée La Canale, vous l'avez laissé en.
Ils m'ont refusé à l'association des anciens élèves. Hein,
voilà,
fini,
exactement. Donc, oui, parce qu'ils vous connaissent.
Alors donc Elie Semoun, dans cet ouvrage quand même, c'est vrai que le point de départ quand même de cet amour, ça nous intéresse bien votre relation à la nature. C'est quand même en 73 un petit terrain boisé dans le Loiret que maman et papa achètent. Et alors là, qu'est-ce qui se passe?
On y allait à reculons. On était mon frère, ma sœur et moi-même. On y allait tous les week-ends à reculons, c'était horrible parce qu'on s'emmerdait là-bas. Mmh. Et on passait notre temps à arracher les ronces, à couper les. Enfin, on était rebelles, c'est normal, on n'aimait pas ce que faisaient nos parents. Et puis moi, j'avais trouvé un refuge dans un arbre et du haut de cet arbre, tel le baron perché, je regardais les fougères pousser au pied de l'arbre et puis elles m'ont attiré. Elles m'ont comme appelé et puis j'ai commencé à aller voler des fougères chez les voisins et à faire un champ de fougères et je trouvais ça magnifique.
Mais vous êtes redescendu, vous n'êtes pas fait comme ce jeune aristocrate
du
18e siècle.
Non, il est resté longtemps.
Oui, il est resté longtemps. Puis il avait une copine, il a dit non, je ne veux pas de toi,
Non, mais reste tout seul. Moi, c'est tout le contraire. Non, je suis descendu. De toute façon, si je n'étais pas descendu de cet arbre, je ne serais pas ici.
Oui.
Mais... et puis voilà, j'ai eu une relation avec la nature très physique, on va dire. Ouais. Ça a commencé par cet arbre. Et puis après, j'ai mis les mains dans la terre. Et tous ceux qui aiment le jardin, le jardinage, les plantes, savent de quoi je parle.
Alors vous aviez quand même votre ami.
De toute façon, ils écoutent tous cette émission. Donc,
oui,
on s'adresse pas.
En tout cas, un certain nombre, mais ils sont concernés.
Oui, ils sont concernés. Ouais. Voilà, on n'est pas des extraterrestres.
Et vous aviez donc votre ami, le charme aussi, sur ce terrain donc, du Loiret, près de Courtenay.
C'est là sur lequel je montais.
Et là. Vous avez dit évidemment à votre père, ah non, il ne faut pas y toucher celui-là, il ne faut pas l'abattre.
Ah oui, parce que mon père, son obsession, c'était de couper les arbres. Voilà, il voulait, il y avait trop d'ombre, il y avait des chênes, des acacias, et ça me déchirait le cœur quand il coupait les arbres, alors je n'ai pas voulu qu'il touche à ce charme.
Et donc il y a autour bien sûr il y avait des chênes centenaires. Alors on a un peu l'impression quand même que vos premiers cachets de comédiens, il y en a un qui a été extrêmement heureux, c'est un pépiniériste qui porte le nom d'un réalisateur de cinéma, c'était les 400 coups, mais les 400 coups de bêche avec
c'est ça. Donc oui c'est vrai que j'ai dépensé beaucoup d'argent chez eux, d'ailleurs j'espère pouvoir le récupérer un jour. Voilà.
Bon.
Beaucoup de terreaux achetés, de pots. Enfin, je me suis bien fait arnaquer et c'est un scandale. Non, mais c'est vrai que quand on a une passion, on dépense de l'argent pour ça. Mais on est largement récompensé.
Alors, il y a un homme que vous connaissez, c'est Jean-Marie Pell, qui était ce botaniste absolument formidable. Moi, je suis ravi qu'il vienne parfois en illustration dans cette émission parce que ce grand pharmacien, donc, nous faisait aimer les plantes. Et avec lui, on va découvrir peut-être pour continuer dans cette émission. L'origine donc des plantes à fleurs. Donc comment ça s'était passé, Jean-Marie? Racontez-nous.
Oui, elle remonte à la fin de l'ère secondaire. C'est l'époque qu'on appelle le Crétacé, c'est-à-dire en gros, mais il n'y en avait pas beaucoup encore, il y a 130 millions d'années.
D'accord.
Elles ont commencé à exploser vraiment il y a 100 millions d'années. Et elles sont devenues de plus en plus nombreuses parce qu'il y a eu de plus en plus d'insectes et qu'il y a eu une spectaculaire coévolution entre l'insecte qui prenait la forme de la fleur et la fleur qui se mettait à séduire l'insecte. Oui. Et la fleur, elle donnait du nectar, elle donnait des odeurs, elle donnait des pétales colorés. L'insecte était très attiré par tout ça. Il fallait qu'il puisse aller sur la fleur ou éventuellement dans la fleur. Donc sa forme devenait idoine. Sa trompe était plus ou moins longue selon que la fleur était plus ou moins creuse. Donc tout ça a évolué ensemble et nous a donné maintenant une myriade de fleurs, puisqu'il y a en gros 250 000 espèces de plantes à fleurs. Alors que des plantes sans fleurs visibles, comme les conifères, il y en a 700 espèces seulement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et les fougères, qui ne font pas de fleurs non plus, il y en a à peu près 20 000 espèces. C'est beaucoup moins aussi. Donc les fleurs tiennent le haut du pavé du monde végétal.
Le rôle des pétales, le rôle des étamines, pétiole, faisons le point. Rappelez-nous à quoi ça sert tout ça.
Le pétiole, ça porte la fleur. Les pétales, c'est les panneaux publicitaires. C'est-à-dire que de loin, l'insecte voit une couleur et s'approche de la couleur, c'est la pub.
Quand il consomme.
Et il consomme quand il arrive, absolument, il consomme le nectar que la fleur a fabriqué pour lui. Alors ce nectar, il est au fond de la corolle, parfois dans des espèces de cornes d'abondance, comme dans les encolies par exemple, ou bien il est à la base des étamines, ou bien il est à la base des pétales, enfin il y en a toujours un peu à quelque part, parfois il est aussi installé sous l'ovaire, mais l'insecte il le sait parce qu'il a fréquenté déjà cette fleur, donc il sait exactement où il doit aller chercher son nectar. Ça c'est donc les pétales.
Alors étamines.
C'est les testicules, si vous voulez, qui fabriquent les spermatozoïdes, que pudiquement, en botanique, on appelle entérozoïdes, mais c'est la même chose. Ce sont des petites cellules qui sont cachées dans le grain de pollen. Le grain de pollen, c'est une toute petite boule qui ne contient que d'habitude 4 cellules, dont l'une donne effectivement les spermatozoïdes. Et l'insecte, quand il s'agit dans la fleur, il s'en met partout. Mm-hmm. Puis après, il va dans une autre fleur parce qu'il voit de nouveau le panneau publicitaire. Il arrive dans l'autre fleur. Et là, eh bien, il s'agit de nouveau. Et puis son pollen, il le répand sur le pistil, qui est l'organe femelle. Et l'organe femelle reçoit à son extrémité, qu'on appelle le stigmate, il reçoit ce grain de pollen. Alors c'est mouillé, c'est humide, et le grain de pollen il se met à germer, puis il fait un tube, et le tube va apporter les deux spermatozoïdes dans l'ovocyte, c'est-à-dire le gamète femelle. Puis il y a une fécondation. Alors ça donne le point de départ d'un nouvel être. Alors, quand cette petite cellule s'est constituée, la plante s'évertue à la protéger. Alors, elle fait toutes sortes de tuniques autour. Alors, il y a 4 ou 5 tuniques successives, dont l'une est le fruit, dont l'une, plus proche de ce germe de vie, c'est la graine, et puis autour, c'est le fruit. Donc, on voit que la nature s'obstine à protéger ce petit œuf qui s'est formé par la rencontre du gamète femelle, qu'en botanique on appelle l'ovule, en zoologie on dit ovocyte, et puis les entérozoïdes, qu'en zoologie on appelle les spermatozoïdes. Et ça donne finalement une graine et un fruit.
Et voilà, donc Jean-Marie Pell qui nous racontait donc l'origine de ces plantes, et puis qui nous remet quand même à niveau un petit cours de SVT, ça peut pas faire de mal.
Passionnant. C'est passionnant, il explique les choses d'une manière très, très simple et en même temps C'est passionnant, donc ça veut dire que les insectes ont quand même un rôle extrêmement important. On dirait que c'est eux les chefs d'orchestre, en fait.
Il y a le ver de terre dont on parlera tout à l'heure, d'un côté. Voilà. Et puis on a aussi, donc, évidemment, ces insectes pollinisateurs.
On est à l'étage en dessous, à la cave, et puis après on est aussi au 7e ciel avec les insectes volants. C'est joli.
Et alors, donc, dans cet ouvrage, Élisée Moon, Pelouse interdite, donc édité chez Ulmer, vous dites qu'en fait, vous avez une plante qui était la première. Alors, c'est pour un hommage forcément à Alexandre Dumas, ça a été le camélia. Oui. Et dans notre grande série L'erreur, c'est l'avenir, on se plante tous les uns les autres.
On se plante, oui, c'est le cas de le dire. Bah oui, en fait, je l'avais mis, je voulais faire une haie originale parce que dans le jardin que j'avais, c'était un peu beauf. Enfin, ils avaient mis des sapins, tout ça, des tuyas.
Ah, tuyas, le béton vert, oui, ça fait mal.
Voilà, ça fait très mal. Ouais. Donc, je les ai arrachés et je voulais mettre.
C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tuyas là qui nous écoutent.
S'il vous plaît.
Non, c'est pour par rapport aux gens qui nous écoutent.
Vous savez, c'est assez incroyable d'être interrompu, d'être invité et d'être en plus le rédacteur en chef. Alors, excusez-moi, mais je vais commencer à élever le ton.
Il continue. Donc, le tuyas, on n'aime pas. Okay.
On n'aime pas. Et je voulais faire une haie de camélia. Je trouvais ça original et joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Taisez-vous. Malheureusement, c'était au soleil. Donc, il a fallu que je les déplante et que je les mette toutes. Tous à l'ombre. Voilà, des petites erreurs, mais c'est normal.
C'est demi-ombre, je peux le dire, ça.
Oui, oui, vous pouvez le dire, c'est bon.
C'était demi-ombre. Bon, ce que je vous propose, si ça ne vous dérange pas, une chanson, là, on craint le pire, parce que, enfin, donc, on va la découvrir. Et puis ensuite, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous quitter, en fait, là, on ne va pas vous quitter pendant la chanson. Et puis ensuite, deux autres sujets que vous avez choisis. Oui. Comme rédacteur en chef, vous l'avez compris, dans C'est au de mon amour sur France Inter, en live.
Il faut que je vous avoue, je suis à bout. Tous mes tabous tombent quand je suis à vous.
Laissez-moi venir à bout de vos tabous. Un mot de vous et
je suis tout à vous, mais vos tabous ne sont qu'à vous. Tabou, je joue avec le feu, mais vos tabous ne sont qu'à vous. Tabou, je joue avec le feu, avec le peu de ce que je sais de vous. Que je veux de vous,
je vous dis tout,
c'est tout de vous, c'est tout de vos atouts. Mais vos tabous ne sont qu'à vous. Tabou, je joue avec le feu. Mais vos tabous ne sont qu'à vous. Tabou, je joue avec le feu, avec le peu de ce que je sais de vous. Mais vos tabous ne sont qu'à vous. Tabou, je joue avec le feu, avec le peu de ce que je sais de vous.
Je suis obligé, Élisée Moon, de reprendre la parole pour juste dire. Oui, c'est
un chanteur jardinier.
Un chanteur jardinier.
C'est comme un garagiste paysagiste ou comme un acrobate coiffeur. Vous voyez,
c'est
la schizophrénie.
Et oui, je comprends bien. Donc Élisée Moon n'est pas tout seul avec Alizée.
Alizée Lalande. Très belle Alizée Lalande.
Et la chanson s'appelait Tabou.
Oui.
je l'ai descendu dans mon jardin. Je l'ai descendu dans mon jardin. Il piétinait mon romarin. Et j'aime pas ça qu'on piétine mon romarin. Ni mes coquelicots d'ailleurs, ni mes coquelicots.
CO2 mon amour, Denis Chessou,
bah oui,
sur
quoi.
France Inter.
Et oui, y a pas de raison. C'était Vincent Malone, c'est Vincent Malone, bah oui, qui aime la nature aussi comme nous tous. Donc on l'a compris. Vous êtes avec nous, Elie Semoun, donc avec cet ouvrage Pelouse interdite. Et alors dedans, on entend les abeilles aussi. On
oui.
va commencer à en parler. On entend les abeilles. Et là, racontez-nous aussi, bah cet amour extrêmement partagé, on va dire, de ces joyeux hyménoptères. Et puis aussi les problèmes qu'ils rencontrent.
Oui, alors bah les abeilles, c'est un formidable petit animal extraordinaire à observer. D'ailleurs, je le dis dans mon spectacle, je dis que un jour j'ai lu un article qui disait que les abeilles étaient une espèce en voie de disparition. Je me suis dit, il faut que je les sauve. Heureusement que j'avais pas lu un article sur les migrants. Voilà,
oui.
On va passer à autre chose. C'était une blague. Hein.
Oui.
Et donc, et je passe beaucoup de temps à les observer et en ce moment, beaucoup de temps à les protéger. C'est-à-dire que je suis traumatisé par le frelon asiatique. Comme tout, je suis pas apiculteur. Enfin, je fais mon miel, j'ai 3 ruches. Hein, c'est ridicule. Si des apiculteurs professionnels m'écoutent, ils vont se moquer de moi. Mais en tout cas, ça m'empêche de dormir. Et je peux comprendre que eux aussi. Parce que si vous voyez l'activité des frelons asiatiques devant les ruches, c'est horrible. Elles viennent prendre les abeilles, elles les emportent, elles leur coupent la tête, elles les bouffent. Et elles y retournent. Et il faut savoir qu'une trentaine de frelons asiatiques devant une ruche, ça peut la détruire en quelques jours.
Alors j'ai rencontré un homme qui s'appelle Denis Thierry, qui est directeur de recherche à l'INRA de Bordeaux, donc qui travaille dessus. Il faut dire qu'aujourd'hui, donc, ces fameux frelons asiatiques, ils sont partout en France. Ils sont en Espagne, ils sont en Italie.
Partout.
On les voit en Bretagne, à Brest, il y en a à Amiens. Donc voilà. Et donc, Denis Thierry, racontez-nous. J'ai enregistré cela il y a 2 jours avec Denis Thierry. Donc racontez-nous aussi peut-être d'abord l'arrivée et ce qui se passe avec les frelons asiatiques.
Bonjour Denis. Alors, il arrive par des importations, comme très souvent les invasions biologiques, des importations de denrées ou alors des importations, en l'occurrence, d'objets exotiques. Hein. Donc, il rentre à côté d'Agen, à Villeneuve-sur-Lot. Hein. Ça a été parfaitement tracé. On a observé très vite la première colonie de frelons en 2004 en France, hein, par un collègue du Muséum National d'Histoire Naturelle qui était localisé à côté d'Agen. Et dès l'année suivante, on commence à avoir plus d'une centaine de colonies. Puis ensuite, ça explose. Toute la région aquitaine, on va dire.
Alors, donc après, on le retrouve effectivement en Angleterre. Je crois même qu'il va du côté du Luxembourg, pas forcément pour des raisons fiscales, mais enfin, donc on l'a retrouvé aussi du côté du Luxembourg. Mais alors maintenant, parlez-nous, s'il vous plaît, de la prédation donc de l'abeille, notre Apis mellifera, qui fait ce qu'elle peut quand elle rencontre un frelon. Il est où ? Il est à l'entrée de la ruche et puis il la guette pour la choper et manger ses protéines ?
Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que les frelons, comme les guêpes, hein, c'est très proche, ils ont besoin de 2 types de nourriture. Ils élèvent leurs larves en les nourrissant exclusivement avec des protéines animales. Donc les larves ne mangent que de la viande ou du poisson. Tandis que les adultes se nourrissent de sucre, c'est pour ça que les frelons attaquent les fruits en décomposition, etc.
On n'a pas de frelons végétariens ou véganes, quoi, non, c'est...
Pour l'instant, non.
D'accord.
Donc la collecte de nourriture va commencer par une fondatrice, hein, qui au mois de mars va s'activer, et elle va construire un petit nid, où là, elle va pondre ses premiers œufs qui vont devenir ses ouvrières. Évidemment, au début, donc on n'a que des larves, il n'y a aucune ouvrière qui travaille, donc il n'y a que la fondatrice qui travaille. Donc la fondatrice ne va pas essayer d'aller attaquer les ruches, d'ailleurs qui ne sont pas très actives encore à l'époque. Et attaquer une ruche, c'est dangereux puisqu'elle peut se faire piquer par une ouvrière d'abeilles, hein, et donc mourir. Donc elle va se concentrer plutôt sur de la nourriture facile à obtenir, c'est-à-dire de la viande fraîche, du poisson frais. Et c'est aussi pour ça, par exemple, qu'autour des ports poissonniers en Bretagne, on trouve énormément de colonies de frelons actuellement.
Et en fait aussi, elle aime beaucoup les hypermarchés, hein, par définition. Donc
Alors là, c'est de la concentration de nourriture. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que le frelon, il aime bien l'activité humaine. Hein. C'est pour ça qu'on le trouve beaucoup dans les communautés urbaines, hein, comme à Bordeaux, on parlait de Brest tout à l'heure. Et donc évidemment, les hypermarchés jettent énormément de nourriture fraîche tous les jours.
Alors maintenant, racontez-nous s'il vous plaît aussi, donc, pour ce frelon asiatique, qui est capable aussi d'aller attraper des abeilles en plein vol. En général, ce frelon donc, s'intéresse évidemment là où il y a une concentration, c'est-à-dire que l'abeille sauvage l'intéresse beaucoup moins, il préfère donc ces fameuses abeilles mellifères.
Tout à fait. Alors, au mois de juillet commence la prédation sur les abeilles. Au mois de juillet, c'est-à-dire quand la colonie de frelons commence à avoir une taille respectable, Donc on imagine, parce que ça n'a pas été validé encore scientifiquement, qu'ils ont besoin de changer un peu de type de nourriture. À ce moment-là, ils vont se mettre à se focaliser beaucoup plus sur les insectes, et en particulier sur les abeilles. Et donc à ce moment-là, la colonie de frelons va envoyer des ouvrières qui vont faire les va-et-vient avec les ruches qui sont à proximité. On a mesuré qu'une ouvrière frelon pouvait venir plusieurs fois par jour sur une ruche, qu'elle était capable jusqu'à 10 fois par jour, et était capable de faire ça pendant au moins une bonne semaine. Donc vous voyez le nombre d'abeilles qu'il peut emmener, puisque à chaque fois il va ramener une abeille dans ses pattes, hein, pratiquement à chaque fois. Cette prédation commence de juillet et elle va se terminer, on va dire, fin septembre.
Denis Thierry, donc vous avez posé des balises sur des frelons.
Un des gros problèmes pour lutter contre les frelons, c'est de localiser les nids pour les détruire. Et ça, pour l'instant, on ne savait pas le faire. Donc on s'est dit, on va attraper des frelons devant les ruches en prédation, on va les équiper d'un système de balises et on va essayer de suivre le vol de retour jusqu'au nid. Donc on a mis au point un système de balises émettrices avec nos collègues anglais de l'université d'Exeter. Et donc avec ça, on a réussi à en pister en gros 80% de ceux qu'on équipait et à chaque fois, ils nous ont emmenés sur leur nid.
Denis Thierry, où trouve-t-on les nids de frelons ?
La plupart des nids sont cachés dans les arbres, dans le feuillage, très haut. Et donc, alors, ces nids de frelons, on ne les voit pas tant que le feuillage n'est pas tombé. C'en est même assez surprenant. On peut en avoir un dans son jardin, ne pas le voir, et puis d'un seul coup, mi-septembre, quand les feuilles commencent à tomber, tu vous dites, ah ben, j'ai un méga nid qui fait 1,50 m de diamètre.
Ils peuvent, en tant qu'humain, qu'est-ce que je peux faire lorsque je vois un nid de frelons qui se trouve à 10 mètres, 15 mètres et plus affinité ?
Alors, quand on voit un nid de frelons, de toute façon, dans la réglementation française maintenant, puisqu'il est classé espèce nuisible catégorie 2 depuis 2011, quand on a un nid de frelons dans son jardin, on est tenu de le détruire ou de le faire détruire. Alors, soit on le fait tout seul, c'est-à-dire on grimpe dans un arbre comme ça. Évidemment, assez peu de gens le font. Les pompiers ne sont plus autorisés pour détruire un nid de frelons ou de guêpes depuis que ces prérogatives leur ont été retirées par un gouvernement précédent.
Et le GIGN ne va pas s'en occuper.
Donc, il faut faire appel à des destructeurs de nids. Alors, les apiculteurs se sont organisés depuis très longtemps, en particulier en Aquitaine, en Grande-Aquitaine, et en particulier le GDSA, qui est le groupement de défense et de santé de l'abeille. Eux, ils ont formé ce qu'on appelle des perchistes. Donc, comme on détruit un nid de frelons, ça se passe la nuit, il faut attendre que tous les individus soient rentrés, et on déploie une perche télescopique qui fait 15 mètres, 20 mètres de long, et dedans, on va injecter du gaz. Et le gaz, en se détendant, il va congeler le nid de frelons qui se prend en glace et qui tombe avec le poids. Et à ce moment-là, le nid, tout de suite, on l'emballe et on le détruit.
Tout ceci est très efficace parce qu'on a de plus en plus de frelons malgré tout.
Oui, parce que c'est une course qui est perdue d'avance. Si vous voulez, nous, par exemple, en Aquitaine, je crois que l'année dernière, ils ont détruit quelques milliers de nids. D'abord, on ne sait pas quantifier le nombre de nids, mais vu tout ce qu'on voit voler et tout ce qu'on voit, on peut s'attendre à des chiffres qui sont faramineux en France, et en particulier dans les zones retirées, dans les forêts et choses comme ça, qui ne sont pas trop observées. En ville, on arrive à les quantifier assez facilement. On n'a pas dit non plus, mais un nid de frelon ne passe pas l'hiver. C'est-à-dire, quand il est abandonné par les nouvelles reproductrices, ensuite, le nid et la colonie va s'éteindre et il ne sera jamais réutilisé. Donc, il arrive déjà qu'on détruise des nids qui sont en cours de vidage, et donc, c'est du travail qui est inutile. Il faudrait les détruire beaucoup plus tôt. C'est aussi pour ça qu'on essaye de pister les ouvrières qui rentrent pour pouvoir avoir la géolocalisation des nids, on va dire, dès le début juillet, quoi.
Alors, Denis Thierry, donc, directeur de recherche à INRA Bordeaux, voilà.
C'est déprimant. Il faut que je mette un GPS sur chaque.
Oui.
Le problème, c'est que j'ai essayé de mettre un GPS, mais c'est très lourd. Donc, le frelon ne peut pas forcément arriver. Ça rend fou. Hein. Moi, je voudrais bien savoir où est le nid.
Déjà, il y a le Varroa, donc ça c'est la
carrière. Il s'est aperçu que vous êtes fauté de lui, quand même. Vous lui avez quand même posé des petites questions, un peu.
Oui, c'est ça.
Faites l'innocent.
C'est comme ça. Alors, juste à vos côtés, pour l'autre sujet, Christophe Gatineau, que vous avez choisi, parce qu'il a écrit L'éloge du ver de terre, notre futur dépend de son avenir aux éditions Flammarion. Mais peut-être pour essayer sur le même sujet, donc Christophe Gatineau, il faut essayer de piéger en fait les fondatrices.
Oui, absolument. Il faut essayer d'intervenir au printemps en fait. Donc nous, on a trouvé une astuce.
Ah.
Je voudrais juste revenir en fait. Vous avez dit, Élie, en fait, que les abeilles étaient menacées. En fait, on parle de ces abeilles qui produisent du miel, en fait. C'est une variété et quelques races d'abeilles. Mais en France, il y a 1000 espèces d'abeilles. Voilà. Et c'est ces espèces-là qui sont menacées. Il y a 10 000 espèces de pollinisateurs.
C'est pas les espèces qui sont apprivoisées par nous.
Celles qui sont apprivoisées, souvent, on va même trouver des abeilles hybrides, en fait. Alors, bien sûr, elles subissent le choc, principalement par rapport à l'agriculture industrielle. Ensuite, intervient le frelon asiatique. Le problème du frelon asiatique, c'est que de toute façon, moi je peux lire de ci de là qu'il faut l'éradiquer. Je vois, de toute façon, c'est trop tard. Il faut apprendre à vivre avec lui, en fait. Et il faut surtout piéger donc les réguler.
Les gens de mettre un nid de frelon dans la chambre, par exemple.
Absolument.
Ou
dans la chambre, tout au moins.
Pour pouvoir communiquer et pouvoir
tout au moins dans le
accueillir
salon, tout au moins dans le salon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, réguler les populations. Hein. Autrefois, on régulait les populations de frelons européens, qui font aussi des dégâts sur les ruches. Nous, en Limousin, dans l'endroit où j'habite, on a plus de problèmes d'ailleurs avec les frelons européens. Mais jusqu'à une certaine époque, les nids de frelons européens étaient détruits. Aujourd'hui, quant à particulier à un nid de frelons européen, alors bien sûr, il en voit disparition un peu partout, ou asiatique, on n'appelle plus, parce que ça coûte une centaine d'euros pour détruire. Oui. Donc l'idée, c'est de piéger au printemps. Nous, on pose un piège avec un peu de cassis au milieu d'un cassissier. Il suffit de prendre une première femelle, et après, les phéromones vont faire le travail, et on peut en attraper
pas
une
semaine. Avec de l'alcool, sinon il y a les alcooliques du voisinage qui viennent.
Ça n'attire que les alcooliques, et c'est pas l'objet, en fait.
Ouais. Et en fait, un nid d'alcoolique, c'est un bar, en fait.
Et c'est moi qui dis des conneries. Très bien. Bon, écoutez, on va se passer une petite chanson, et puis on revient. On va parvenir sur le verre.
Ça veut dire taisez-vous.
Je suis devenu ce que j'ai récolté, ce qui m'est tombé dessus et ce que j'ai bien pu ramasser. Je suis devenu ce que je redoutais, mais je m'en suis aperçu qu'une fois le mal déjà fait. Ça devait bien un jour arriver. Je suis devenu ce que j'ai fabriqué, et je ne sais vraiment plus comment m'en détacher. Je me suis fait tout seul et je me suis raté. J'ai dû trop souvent être seul, où je n'ai pas été assez bien. Je sais qui j'étais, je sais qui je ne suis plus, je sais ce que je faisais, je sais ce que je ne ferai plus, je sais qui j'aimais, je sais qui je ne déteste plus. Font les années, c'est très bien écrit dessus, c'est même soigneusement souligné. Je suis devenu tout ce qui a pu se passer, les souvenirs perdus ou complètement déformés. Je me suis fait tout seul et je me suis raté. J'ai dû trop souvent être seul, où je n'ai pas été assez bien conseillé. Je sais qui j'étais, je sais qui je ne suis plus, je sais ce que je faisais, je sais ce que je ne ferai plus, je sais qui j'aimais, je sais qui je ne déteste plus.
Miossec, je suis devenu sur France Inter, CO de mon amour avec Elie Semoun, son ouvrage Pelouse interdite. Dites donc, en général, le jardin, on parle d'école de sagesse. Et alors, il y a
pas du tout. Ouais. Non, c'est vrai qu'on dit que ça apprend la patience, mais j'avoue que ça ne m'a pas appris du tout la patience.
Ah oui.
Non, ça m'a appris plein de choses, d'être un peu plus curieux et un peu plus savant sur la beauté des plantes et sur la façon dont elles poussent et dont elles vivent. Mais pas vraiment la patience, non.
Alors, juste à vos côtés, nous a rejoint donc Marlène Diry, qui est journaliste et qui s'occupe de développement durable. Vous souhaitiez rencontrer donc Elie avec un côté un peu slow que vous aimez, autrement dit, on prend son temps. Vous êtes allé, vous étiez en Île-de-France donc cette semaine, et vous avez assisté à la deuxième édition de quoi ?
Oui, bonjour Elie. Bonjour. J'ai assisté à la deuxième édition des Jardins Ouverts. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, ces Jardins Ouverts, en fait, c'est depuis seulement l'an dernier. C'est une nouvelle édition en fait de Jardin Partagé. Et ça, on va dire, les gens louent en fait un lopin de terre. Donc ça s'est passé, moi j'ai choisi d'aller à Garches, oui, dans les jardins familiaux.
Haute-Seine.
Haute-Seine, exactement. Et j'ai fait la connaissance d'Amélia, donc qui est espagnole, et de Mohamed, marocain, en fait, qui sont deux passionnés qui ont décidé de se réunir de temps en temps sur ce lopin de terre pour y cultiver leurs propres légumes. Mmh. Alors c'est une vraie tendance en ce moment, c'est un peu, ça s'appelle un peu le slow garden, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, et ça permet de se retrouver, de se ressourcer. Donc en fait Amélia, elle se retrouve la main dans la terre, elle va prendre la pioche, elle va bêcher, plantant au gré de ses coups de cœur, de ses peines aussi, de ses joies, donc un petit peu comme ça peut nous arriver à tous. Mmh. Et bien elle est contente de pouvoir rapporter dans son panier, dans sa cueillette, de belles tomates en fait qui ont un vrai goût d'antan. Et donc dans ce jardin familial, et bien, vous avez tout. Vous avez les taupes, les campagnols, les guêpes, ça sent la nature quoi. C'est bon, ça sent les fleurs sans émanation toxique. Et bien j'ai envie de dire, de là à passer au slow, il n'y a qu'un pas pour nous tous. Et donc le slow, qu'est-ce que c'est? C'est justement cette tendance au jardin local, sans pesticides, qui consiste à ralentir pour consommer mieux, à ralentir pour produire mieux, et puis aussi à préserver un petit peu les pollinisateurs, hein, comme on parlait tout à l'heure.
Merci Marlène Diry pour cette petite tendance. Et dans ce jardin, cette grande tendance, n'oublions pas quand même l'essentiel, c'est-à-dire notre ami, le ver de terre. Ah. Et donc vous avez souhaité la présence, donc, je rappelle, de Christophe Gatineau, qui est agronome spécialisé en agriculture, on va dire assez innovante, et aux éditions Flammarion, il vient de sortir l'éloge du ver de terre, qui est quand même... un marqueur de santé des sols incroyable et qui fait partie, on dit très souvent que c'est la première biomasse terrestre. Moi, je ne sais pas si c'est
le cas. Je l'ai entendu parler de ça à la radio, puisqu'il y a d'autres radios que France Inter, je vous l'annonce.
Pareil.
Ouais, c'est dingue.
Oui, mais on est en tête.
Incroyable. Ouais. Non, mais il en parlait d'une manière formidable, donc laissons-le parler d'eux.
En fait, c'est pas la première biomasse terrestre, en fait. Il y a toute une.
Oui, déjà, Denis, vous avez dit n'importe quoi.
Toute une légende autour de cela. La première biomasse terrestre, en fait, ce sont les végétaux. Je crois que c'est 82% de la biomasse. Alors, par contre, en revanche, dans un sol cultivé, les vers de terre représentent la 80% en fait de la masse des êtres vivants qui fabriquent la nourriture des sols. Alors, moi, j'ai fait l'éloge du ver de terre, mais. Pas des vers de terre, d'un ver de terre, d'une espèce de ver de terre, c'est le lombric terrestre, parce que des vers de terre, il y en a 150 espèces environ en France, et puis entre chaque espèce, entre chaque extrémité, en fait, on a autant de différences qu'entre une souris et un chat. Alors pourquoi un chat? Parce que notre lombric terrestre, il mange aussi de la viande, voilà.
Alors, il mange du chat.
Il mange, c'est ça, il mange du chat.
Non, mais pas les croquettes du chat, non, non.
J'ai
bien cru,
Mais alors, son job dans le jardin de Élie ou bien les nôtres ou partout, c'est donc de labourer les sols en permanence pour les garder frais, pour les ventiler, pour que la terre soit
fertile. Dans le compost, absolument. Aussi, évidemment.
Mais souvent, les paysans aujourd'hui, avec l'érosion des sols, souvent ils disent les pierres remontent à la surface, en fait. Et en fait, les pierres ne remontent pas à la surface, elles remontent pas à la surface de l'eau, ni du sol. C'est en fait les sols qui sont vont, quand le ver de terre disparaît des sols, les sols s'en vont rejoindre les rivières, les océans, la mer, etc. Voilà, bon. En revanche, quand les vers de terre sont présents dans un sol, régulièrement, tous les ans, ils remontent une certaine quantité à travers leur déjection, leur caca, dirons-nous, en fait. Ils remontent une certaine quantité de terre, et ça, on le sait depuis Darwin. Darwin, il avait mesuré, il avait déposé dans une prairie, je crois.
Il avait écrit un bouquin d'ailleurs aussi sur les vers de terre. C'est la Bible. Donc,
il a conclu son œuvre sur les vers de terre, parce que c'est le scientifique. Pendant 40 ans, il a étudié les vers de terre et il s'est interrogé, notamment le lombric terrestre. Et il s'est interrogé justement sur l'intelligence de ces vers de terre, qui est absolument stupéfiante. Je veux juste prendre
un cerveau.
Ils en ont un petit, mais ils l'utilisent au maximum, je dirais. Darwin conclut sans aucun doute, et d'ailleurs les travaux ont été confirmés ensuite par Marcel Bébouché, qui est un ex-directeur de recherche de l'INRA. Qui était à Montpellier, c'est ça. Oui, le ver de terre a conscience de son environnement, en fait, du monde qui l'entoure. Voilà. Alors, cette espèce, moi je ne me prononce pas sur les autres espèces, en fait. Donc Darwin avait pu mesurer en déposant sur le sol, je crois qu'il a déposé des petits cailloux de calcaire, voilà. Et 30 ans après, il est revenu dans cette prairie, ils ont fait des prélèvements et ils ont retrouvé une certaine profondeur en fait, ces cailloux. Ça veut dire que les vers de terre avaient rajouté,
accumulé de la terre
et il a calculé en fait, ça correspondait à 1,5 cm par an. Donc ça, ça montre le volume de terre, évidemment, le vers de terre. Ces vers de terre, c'est lombriques.
Donc il faut labourer les sols, c'est les tuer.
Alors on peut pas résumer ça, mais c'est un peu cela en fait. Ça perturbe bien sûr que la vie des vers de terre.
Mais même nous jardiniers, il faut pas labourer le sol.
Il faudrait pas remuer le sol.
Voilà,
il y a comme une différence entre remuer le sol et le labourer.
Voilà, et puis en fait entre labourer il y a 50 ans et labourer aujourd'hui aussi c'est très très différent. C'est-à-dire que souvent on stigmatise sur la charrue, j'ai envie de dire, bon bien sûr, ça fait pas du bien à la vie du sol, mais si vous prenez en agriculture,
le but au départ c'est de l'oxygéner, c'est un peu ça l'idée, c'est de retourner
quand on retourne la terre, c'est l'oxygéner, c'est prendre le dessus sur le couvert en fait, c'est d'enfouir ce qu'on appelle les mauvaises herbes et toutes les graines tout simplement, donc d'avoir un sol
propre. Alors, apparemment.
C'est une erreur, en fait. C'est une erreur. C'est pas une erreur colossale.
Mais qu'est-ce que l'homme fait sur Terre? Il fout la merde, en fait. Non, mais ça, c'est scandaleux. On a l'impression que la planète, la Terre, la nature n'a pas été créée pour l'homme. Elle a été créée pour tous les autres animaux, mais pas pour l'homme. Qu'est-ce qu'on fait là?
Bah, de toute façon, l'agriculture, je veux dire, forcément, c'est une science du compromis.
C'est pas l'homme, c'est les excès de l'homme.
C'est les excès de l'homme, bien évidemment. Et à partir du moment
où. Je ne visais pas en disant ça.
Non, je prenais très, très bien.
Je me demandais pas ce que vous faisiez là. Je dis pas que vous avez un cerveau de ver de terre. Enfin.
Quoique.
J'en suis pas loin.
Quoique. Alors, dites donc, quand même, Christophe Gagnon, que fait le ver de terre que ne font pas les outils, justement?
Alors, je dirais que le ver de terre est la seule bestiole qui est capable justement de remuer en permanence le sol, c'est-à-dire, et en le remuant, de l'oxygéner et de le rajeunir. Parce qu'en fait, quand un sol vieillit, il devient de moins en moins fertile et seuls les vers de terre sont capables de remuer vraiment en profondeur, c'est-à-dire qu'il peut remonter de la terre suivant la quantité, le volume de terre, bien évidemment, de 50 cm à 1 mètre, etc. Aucun outil est capable de faire ça, surtout qu'en même temps, il va enrichir cette terre. Parce qu'en fait, le vers de terre, si on prend le cas du lombric terrestre, je veux dire que il a une galerie verticale. Dans le fond de sa galerie, il s'est aménagé une petite chambre. On a aussi découvert, depuis Darwin, on sait qu'il va, il va aménager le sol de sa chambre avec des petits cailloux. Cailloux qu'il a récoltés. C'est très super sérieux.
Non, mais c'est clair. Un spectacle en boucle. Il écoute un cerf.
Voilà. Ça ménage.
On a calculé l'audience, d'ailleurs. Vous savez que sur 10 000 lombriques, il y a 5 000 à peu près qui écoute France Inter.
France Inter, oui, c'est la part de marché. Alors dites donc, il a ni dents, ni oreilles, ni yeux, et en même temps, il n'est pas aveugle. Alors, il n'aime pas la lumière du tout.
Oui, et en revanche, par contre, il a des papilles gustatives extrêmement développées, tout simplement.
Est-ce qu'il est plus présent dans le compost, par exemple?
Non, il n'est pas plus présent
dans le compost que dans la terre.
Non,
il n'est
pas dans le compost, en fait. Hein. C'est pas les vers qui vont fabriquer.
C'est pas son restaurant favori, le compost.
Non, mais en revanche, quand tout à l'heure vous avez dit avoir perdu de l'argent en dépendant du compost, non, vous avez nourri la vie du sol. En fait, c'est bien au contraire. Vous avez gagné de l'argent à long terme. Hein, voilà. Oui. Mais le ver de terre, le lombric terrestre, en fait, il se nourrit pas de compost. Il peut se nourrir de compost. Il va avaler de la terre. Il va digérer la matière organique. Mais aussi, il a des papilles gustatives et il choisit sa nourriture, et le matin, enfin en fin de nuit, il va monter à la surface, ouvrir la porte de son terrier, parce qu'on parle
d'intérieur.
D'un terrier aujourd'hui. Il va brouter autour comme broute une vache, et il va choisir sa nourriture.
Et il n'aime pas les pesticides, faut quand même le dire.
Ah, il n'aime vraiment pas les pesticides, ni les engrais chimiques.
Chérie, nous avons le générique de fin là qui arrive tranquillement.
Bah oui, Alors, écoutez, ce que je propose, qu'est-ce qu'il y a comme autre émission après?
Alors, bah, non, ça va être compliqué là après avec Emmanuel. Non, ça va pas le faire tout de suite, mais en revanche, vous élargissez.
Je sais pas où est le problème. On déborde d'une heure et puis voilà.
On sait que vous élargissez aussi le.
C'est un scandale, Denis.
Votre regard, vous quittez le jardin.
Ça ne m'intéresse pas, vos questions ne m'intéressent pas.
J'ai bien compris.
Vous allez rester une heure de plus.
Mais est-ce que la planète vous intéresse quand même, au-delà du jardin? Ça vous intéresse la planète un peu? Ah ben voilà, c'est ça. Ben vous reviendrez alors peut-être.
Oui, je reviendrai.
Vous reviendrez, c'est très bien. En tout cas, vous pouvez déjà lire Elise Moon, Pelouse interdite. C'est un bouquin, mais vraiment de chez Ulmer, mais sans prétention. C'est pas un guide de jardinage, mais c'est toutes vos passions. Là, on voit les fleurs de rocaille, on voit votre jardin tropical, on voit aussi les plantes carnivores, enfin, tout ce que vous avez fait.
C'est la vision d'un artiste.
C'est cela, je cherchais le mot et c'est exactement ça.
Bah, si vous cherchez des mots, demandez-moi.
Je sais bien, je sais bien. Et donc, éloge du ver de terre aussi de Christophe Gatineau. Grand merci à Guillaume Roux, à Henri Marc-Mutel, à Camille Blanès. Et puis, on se retrouve, nous, tranquillement, la semaine prochaine. Je vous emmènerai, tenez, dans la Drôme.